Vous allez entendre un passage de l'évangile de Jean au chapitre 1er, les versets 35 à 42, et la manière dont Jésus, dans cet évangile, appelle les premiers disciples. Il y a tout un jeu de regards, tout un jeu de rencontres que je vais vous inviter à découvrir. Mais d'abord, laissons la place au récit biblique lui-même.
Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre ».
Jean le Baptiste fixe son regard sur Jésus qui marchait et il dit à ses compagnons qui étaient proches de lui « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus est l'homme qui marche, l'homme qui est en route, en chemin, en mouvement. Ce petit détail n'en est pas un. Il dit à lui seul quelque chose de central du Christ que nous sommes invités par l'évangéliste à découvrir à notre tour. Dans une démarche spirituelle, nous sommes invités comme les premiers disciples à suivre Jésus, à travers ses paroles et ses attitudes qui le conduisent à centrer son message sur des questions qui construisent la relation, qui édifient notre spiritualité. Que cherchez-vous et où demeures-tu sont les deux questions centrales de ce passage des Écritures. Que cherchez-vous est la question du Christ et où demeures-tu est celle de ses futurs disciples. Par ces deux questions, la relation se noue et les appelés entrent dans une démarche qui fera d'eux des disciples du Christ, des disciples de la vie désirée par Dieu. Que cherchez-vous montre d'abord que Jésus perçoit le désir des hommes qui se présentent à lui. Ils sont en recherche, ils sont capables de se questionner, de se mouvoir, de se mettre en route. Jean le Baptiste leur a parlé de Jésus, ils ont écouté et ils se sont mis en route. Parfois on se demande comment se fait-il que des gens croient et d'autres pas. Comme si la foi tombait directement du ciel pour les uns et qu'elle ratait les autres. Ici, ce passage met en évidence que la rencontre entre Jésus et ses deux premiers disciples est le fruit d'une recherche. Blaise Pascal, dans ses Pensées, écrit une parole sur Dieu qui dit « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » Et ça veut dire que nul ne peut trouver Dieu librement et que cette quête n'est possible que si Dieu donne les conditions de cette recherche. On peut dire que dans notre récit, les futurs disciples ont entendu parler de Jésus comme le Messie par Jean le Baptiste. Ils étaient donc à l'écoute et ensuite se sont mis en route. Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous n'est pas encore la question que Jésus adresse à Marie du fond du tombeau vide après sa résurrection, qui est celle de « Qui cherches-tu » dans l'évangile de Jean au chapitre 20. « Qui cherches-tu » On passe du « que » au « qui » et Jésus invite ses nouveaux disciples à se situer et à questionner leur propre interrogation de foi. De quoi est faite leur foi ? Sur quoi repose-t-elle ? Quel en est son énoncé ? Pour enfin en découvrir sur qui elle repose. C'est le chemin de la foi qui est ouvert ici. Je sais des choses, je comprends, je réfléchis et je suis invité à me questionner encore et encore. Être disciple, c'est être en route dans une réflexion et un approfondissement qui conduit à la rencontre de l'autre, du tout autre. Cette question « Que cherchez-vous ?» demande une réponse de la part de ceux à qui elle est adressée. C'est d'ailleurs la question que Dieu nous adresse à nous aussi. « Que cherchez-vous ?» Jésus se laisse approcher et se laisse découvrir par cette question « Où demeures-tu ?» Il ne s'enveloppe pas dans un brouillard relationnel empreint de mystère que l'on doit décrypter. Il n'est pas une énigme vivante qui échappe à tout regard. Bien au contraire, voilà qu'il répond à ses acolytes « Venez et vous verrez ». Venir et voir, voilà encore une démarche ouverte. Bien entendu, on peut prendre cette interrogation et même cette invitation au premier degré. « Viens voir où j'habite, montre-moi ton logement et je te dirai qui tu es ». Mais le sens à comprendre prend une toute autre allure. « Venez » et vous verrez dénote l'élan d'aller vers ce Jésus perçu par les disciples comme le maître qui enseigne, alors qu'aller vers lui sera fait de la découverte qu'il est l'envoyé de Dieu parmi nous, bien plus, il est Dieu parmi nous, Emmanuel. Cette invitation est d'une ouverture qui surprend. Venir et voir, cela signifie que les disciples vont apprendre à se rendre compte par eux-mêmes qui il est et de quoi son enseignement est fait. Venir signifie que le mouvement du croyant est libre. Il repose sur la liberté de croire ou non. Dieu me laisse libre d'aller et venir, avec le risque de ne pas aller vers lui, donc de ne pas le découvrir. Par contre, si je vais à lui, c'est ma démarche. Mon élan, ma découverte, ma foi. Cette adhésion consentie et désirée par Dieu et qui est signifiée dans ce « viens et vois ». Voir n'est pas seulement le fait de constater par ses yeux, mais surtout le fait de se rendre compte par soi-même. En grec, le verbe « voir » comprend une notion d'observation et même bien plus, celle d'un regard spirituel. Voir avec le cœur, voir de l'intérieur. Le verbe voir joue un rôle énorme dans l'évangile de Jean et un des passages nous dit ceci. C'est dans Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Pour Jean, voir au-delà de l'apparence conduit à croire. Où demeures-tu signifie où es-tu dans la vie. Ce où n'est pas géographique, mais théologique et spirituel. Quelle est ta position? Voir où Jésus demeure, c'est découvrir ce qui le fait vivre réellement. Ce sera découvrir le lien qui l'unit au Père, lequel l'envoie parmi les humains. Où revient à questionner la source, la provenance, l'origine. Ta ou ta foi pourrait résumer à la valaisanne ce passage de l'évangile de ce jour. Ta ou ta foi, où est-elle cette foi qui t'anime, ou peut-être que tu as mise de côté, dans un recoin de ta vie. Ta ou tes racines de vie. Jésus est l'homme qui marche et qui met en marche. Il crée par sa présence, et parce qu'il accepte le dialogue comme le fondement de toute démarche spirituelle, un élan qui conduit vers les autres et vers demain. Et le regard participe dans ce récit d'appel des disciples à la recherche, aux échanges et à la suivance du Christ. Par trois fois, le regard est signalé dans ce passage et il est parlant. Jean le Baptiste fixe son regard sur Jésus. Jésus regarde les deux disciples le suivre. Jésus fixe son regard sur Simon. Ces trois regards sont de petits détails narratifs, s'il en est, pour donner du mouvement au récit d'appel, mais ce sont des détails théologiques pas du tout anodins. Ils participent une fois de plus à nous dire que, dans ces rencontres, c'est Dieu qui nous regarde, ce Dieu qui nous parle. Le premier et le troisième regard parlent de fixer les regards sur quelqu'un ou quelque chose. Ici, on passe du Baptiste qui pose son regard sur un homme de Galilée et y voit l'agneau de Dieu. Ensuite, Jésus pose un regard sur Simon et lui annonce un changement de nom parce qu'il l'appelle à devenir qui il doit devenir devant Dieu. Il va jouer un rôle crucial dans les évangiles, mais aussi pour construire la première église, celle du Christ. Ces regards invitent à plus que voir ce qui se donne à voir immédiatement avec nos yeux, à voir autrement l'autre, à percevoir ce qui le fait vivre de l'intérieur. Enfin, on nous dit que Jésus se retourna et, regardant les deux disciples qui se mettent à le suivre, les interroge. Le verbe ici peut être traduit simplement par le verbe « voir » ou celui de « contempler, considérer, examiner ». J'aime à penser que Jésus contemple la démarche de ces deux hommes qui le suivent. Il la souligne par ce regard porté sur eux. Il voit de quelle manière ils sont en route. Ils se déplacent dans l'espace. Mais surtout, ils se décentrent de leur appartenance à Jean le Baptiste pour découvrir celle qui va les lier à Jésus lui-même. La question du regard que l'on porte envers les autres est importante. Celui de Dieu à notre égard est un regard bienveillant, un regard d'amour. Le sens premier du mot « regard », c'est « faire attention », d'où « garder »,« regarder ». Cette attention portée sur ce regard traduit la relation que Jésus aime développer dans les rencontres qu'il occasionne tout au long de son ministère. Par le regard, il crée dans une juste distance une proximité respectueuse de l'autre. Il favorise une relation libre de l'un envers l'autre. Il nous dit que Dieu est présent à nous dans une distance qui nous laisse libres de nous approcher de lui avec nos questions. Regard qui ne confond pas l'un avec l'autre, qui conserve cette distance aimante à ne pas confondre, avec une fusion qui mène à la confusion, ne sachant plus qui est qui. Quel regard exercez-vous sur les autres lorsque vous les rencontrez? Un regard qui appelle le dialogue? Un regard qui se protège de l'autre et de ses questions? Surtout aujourd'hui, avec nos masques qui cachent une bonne partie de nos visages, comment nous regarder les uns les autres? Comment témoigner du regard aimant de Dieu pour nous et pour les autres? Ce regard qui nous dit la bienveillance de Dieu à l'égard de tous les humains sans exception. Un regard fait de pardon, de réconciliation, d'une vie restituée. Que vive en vous ce regard de Dieu et qu'il vous porte.